La Cité internationale des arts et le Centre national des arts plastiques se sont associés pour créer un programme de résidence pour les commissaires d'exposition et critiques d'art de la scène française. Du réalise une série d'émissions avec les commissaires lauréats de ce programme. Entretien avec Elsa Vettier, en conversation avec Thomas Conchou.
Elsa Vettier, tu es commissaire d'exposition, critique d'art et éditrice indépendante. Tu participes à diverses publications telles que 02, critique d'art, et tu édites et réalises des contenus radiophoniques. Tu as notamment coécrit avec Jean-Charles de Quillac Saint-Pierre des Corps, un ouvrage paru aux éditions Sombre Torrent en 2020. Tu as produit LL Drops, une émission radiophonique avec Julie Sass, Fabien Valos et Kevin Deboui sur la radio du en 2020. Tu as curaté l'exposition Ecstasy Casual de Samuel Nicolas Inbox à Bruxelles. En 2019 et l'année dernière, tu étais commissaire de l'exposition collective Mauve Zone au FRAC Bretagne et de l'exposition Le Magasin de Pulls de Fabienne Odéou dans le cadre d'Art au Centre à Brest. Cette année, tu es commissaire associé à la Maison Populaire à Montreuil et tu proposes un cycle d'expositions et d'événements intitulé The Artificial Kid, librement inspiré du roman éponyme de Bruce Sterling, dans lequel le personnage principal, artificiellement maintenu dans une apparence adolescente, livestream ses moindres faits et gestes au monde entier. Dans cet espace de pratique amateur et d'éducation populaire, ton projet aborde les notions de visibilité et de valeur et la confusion toute contemporaine entre elles deux, mais également le régime de la célébrité, la question de la représentation de soi et de notre présence digitale à l'heure de la loi sécurité globale et des TikTokers millionnaires. En miroir à ces problématiques, tu abordes aussi des notions de disparition et de retrait politique de la sphère publique, en t'intéressant notamment avec Julie Sass à la pratique de Lee Lozano. Dans le cadre de ta résidence curatoriale, tu es accompagné par l'artiste Harry Lera Benjamina, qui entre lui en résidence de création à tes côtés. Et tu viens d'ouvrir ta première exposition, Aquarium, une exposition collective qui rassemble 6 artistes et dont tu vas pouvoir nous parler un peu plus en avant. Et en parallèle, tu présentes à Mécènes du Sud une exposition collective également, co-curatée avec Margot Bonopéra et intitulée Career Girls, que tu vas nous présenter. Bonjour Elsa.
Bonjour Thomas.
Donc, je suis très content qu'on puisse se parler aujourd'hui et notamment de ton cycle à la Maison Populaire puisqu'on fait une sorte de passage de relais radiophonique.
Absolument.
Entre mon cycle qui s'est arrêté en décembre et le tien qui a ouvert en janvier. Et donc un peu se dire tout ce que je pense le plaisir que c'est de travailler dans cet endroit, à cet endroit-là en fait aussi.
Oui, c'est une résidence qui commence, enfin en fait c'est assez, temporalité assez étrange quoi, elle commence en janvier, donc ça fait un mois que j'y suis officiellement, mais c'est vrai que j'y travaille depuis juillet dernier, donc voilà, et c'est parti pour un an d'exposition, de programme public, programmation qu'on va faire aussi en partie avec Du, donc voilà, qui va être assez, je pense, une année assez, assez riche. Et dont on va parler, bien sûr.
Moi, j'étais très heureux d'écouter ton émission avec Julie Sast de 2020, parce qu'en fait, ça porte en germe tout ce que tu développes à la Maison Populaire, hein, la question des régimes de visibilité, mais aussi d'invisibilité, de la manière dont on confond la représentation, la visibilité et la valeur, et la manière dont peut-être ces notions sont de plus en plus floues à l'heure où ça devient complexe d'avoir de la valeur sans avoir de visibilité.
Cette émission, donc LL Drops, elle s'articulait au départ autour de... En fait, j'avais envie de faire quelque chose autour de Lee Lozano, qui était déjà une figure qui apparaissait dans le livre que j'ai écrit avec Jean-Charles de Quillac, et qui apparaissait de manière un petit peu furtive, et j'avais envie d'y revenir. Je savais que j'y reviendrais à un moment. Et c'est vrai qu'au moment du confinement, j'avais envie de travailler autour notamment de son retrait du milieu de l'art, qui est un retrait assez progressif, qui passe par un travail, on va dire, conceptuel. Donc il y a des pièces qui matérialisent cette disparition comme une forme de performance. Et puis après, il y a le retrait, on va dire, total, où là, elle rentre à Dallas et puis elle arrête de faire de l'art. Et j'avais croisé le chemin de Julie Sass, ici même, à Du Radio. Et je savais qu'elle travaillait sur ces questions de régime de visibilité et de femmes artistes qui ont, à un moment, décidé de se retirer en fait, de ces formes de monstration d'elles-mêmes. Et voilà, des raisons politiques, intimes qui motivaient ses choix. Et donc on a fait voilà, le premier épisode de LL Drops ensemble. Et en fait, Julie a posé énormément de termes a ouvert un peu la réflexion qui motive ce cycle à la Maison Populaire. Et d'ailleurs, bah, Julie, ça s'en fera partie, puisque la troisième exposition du cycle, donc, qui ouvrira en septembre, sera avec elle. Donc oui, c'était le cycle. Bon, il s'appuie un petit peu sur ce travail que j'avais fait avec elle, avec Fabien Valos et Kevin Débouille aussi en 2020. Et je pense qu'il l'ouvre vers d'autres horizons aussi. L'idée étant de le garder assez ouvert à de multiples embranchements, on va dire, théoriques, thématiques.
C'est super intéressant que ça se raccroche à The Artificial Kid, parce que je pense que c'est en partie une des choses qui fait mouche dans ta programmation à la Maison Populaire, de prendre en compte le fait que le public acquis de ce lieu, où donc on a 2500 adhérents qui toutes les semaines traversent le centre d'art, c'est principalement un public de jeunes enfants ou de jeunes adolescents. Cet ouvrage de Bruce Sterling, il te permet aussi d'adresser directement la situation de réception dans laquelle tu vas placer à la fois les œuvres et les artistes de ton cycle d'exposition.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte finalement bien après avoir écrit le dossier de candidature pour la Maison Populaire, la présence des enfants, et qui en plus, suite au Covid, fait qu'ils sont souvent seuls dans la Maison Populaire, sans leurs parents, puisque leurs parents sont invités à rester dehors pour éviter de surpeupler le lieu. Donc, ce qui fait que ça crée des interactions assez drôles dans le centre d'art, et qui sont... Voilà, ils sont un peu en liberté avec les œuvres, donc ce qui peut être angoissant aussi. Mais, et au-delà des enfants, c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la question de l'infantilisation, c'est-à-dire vraiment de aussi c'est ce qui m'intéresse avec ce gamin artificiel, c'est-à-dire qu'il entretient cette dimension enfantine de manière artificielle. Il prend des hormones qui lui permettent de rester enfant. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, d'autant plus qu'on parle de questions de surveillance et de contrôle, la dimension infantilisante aussi de ces logiques. Et c'est vrai qu'à la Maison Populaire, il y a ce jeu entre les adultes et les enfants, et que j'ai perçu progressivement et que j'espère intégrer à la programmation, bah, notamment en travaillant autour d'une installation de Julia Cher, je pense, pour le deuxième volet, qui est une installation où les enfants sont des figures d'autorité et les adultes régressent. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, au-delà du contexte de la Maison Populaire, comme dynamique.
Et donc quand on rentre en résidence à la Maison Populaire, il y a la résidence curatoriale, avec elle est attachée cette résidence de création, historiquement une résidence de création digitale, mais bon, à laquelle plus les ans passent, plus on tord un peu le cou, et ça devient un accompagnement d'un curateur par un artiste, ou d'un artiste par un curateur pendant toute la durée d'un an de cette résidence. Depuis quelques années, nous les résidents ou anciens résidents de la Maison Populaire, on a eu tendance à investir aussi le graphisme comme un endroit qui devrait, selon moi, mériter sa propre résidence de création. Et toi, donc, tu travailles avec Julie Hainaut de l'Espace NES, et dans toute la création graphique que vous devisez pour le cycle d'exposition, vous avez travaillé avec cette typographie de Maxime Célin.
Là, ouais.
Qui reprend des formulaires de sortie de confinement. Et donc cette question de l'infantilisation, elle se retrouve même à l'échelle de la typographie, des éléments typographiques, ce que je trouve vraiment, vraiment assez fin, en fait, dans la manière dont c'est construit dans différentes couches.
Oui, ben, c'est vrai que ce que tu avais mené avec Roxane Maillet pour ton cycle à la Maison Pop, ça me paraissait totalement pertinent et voire indispensable pour donner aussi une lisibilité à ce cycle d'exposition et d'événements qui existe au milieu de plein d'autres choses et d'une identité graphique qui est celle de la Maison Populaire. Donc on a donc inspiré, voilà, par votre collaboration, mais j'avais aussi envie de travailler de près avec une graphiste qui, en la personne de Julie Hainaut, qui... je pense aussi ce cycle avec moi, tellement elle est impliquée dans sa matérialisation graphique. C'est vraiment une collaboration qui est centrale pendant cette année. Et c'est vrai que Julie, elle a amené plein de couches. Elle a travaillé avec des anciennes chartes graphiques de la Maison Populaire, en travaillant un peu sur cette idée de toutes les couches en fait, qui se superposent aussi à la Maison Pop. Et puis, voilà, elle a trouvé ce formulaire Covid en sortant du... C'était pour aller en Italie, et puis il avait été tellement photocopié qu'effectivement, l'encre s'était partiellement retirée des caractères de typographie, et avec l'aide de Maxime, donc ceux-là, ils l'ont redessiné pour en faire cette typo qui est lisible plus de loin que de près, ce qui est aussi intéressant par rapport à ce qu'on raconte sur les questions de visibilité et l'idée que quelque chose qu'on essaye de capturer ou de regarder de près est aussi de plus en plus flou. Donc voilà, et puis il y a le hit, le top hit 200 que Julie prélève tout, à chaque fois qu'elle fait un nouveau support et qui constitue le fond en fait des cartons, des visuels, et qui parle aussi un peu de ce régime de sur-célébrité passagère ou éternelle, hein, parce qu'on retrouve des hits qui ont plus de 50 ans.
Et vous réemployez aussi les QR codes qui rythment notre quotidien maintenant depuis 2 ans, alors qu'avant, je pense qu'on regardait un peu ces objets avec... c'était un peu un truc de geek, enfin pourquoi pas, mais en même temps pourquoi. Et c'est devenu tellement, tellement nécessaire au fonctionnement de notre vie quotidienne. Je trouve extrêmement intéressant que tu le réemploies aussi comme un lieu de monstration artistique, puisque suivant les supports, ils n'amènent pas aux mêmes endroits et ils n'amènent pas au même contenu.
Ouais, je suis contente que t'en parles. C'est vrai que moi, j'étais assez réfractaire presque à l'idée de QR code qui avait été amené par Julie, parce que c'est vrai que moi, avant qu'on soit amené à les réutiliser pendant le Covid, enfin, je l'ai fait vraiment, ce réemploi du QR code, c'était vraiment à contre-cœur, quoi. Je trouvais ça vraiment très ringard. Et Julie m'a dit, mais c'est hyper marrant parce qu'effectivement, ça permet d'amener les gens sur des plateformes. Et c'est vraiment, tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber quand tu mets ça sur ton téléphone, quoi. Donc, on s'est amusé de ça. Et en effet, pour amener sur des plateformes qui sont souvent pas là pour l'affiche du cycle et puis pour le carton d'invitation de la première expo, qui sont, j'en dis pas plus, mais des plateformes des années 90 qui amorcent beaucoup de choses en termes de live stream de soi, de télé-réalité, de tout ce que Internet a pu changer aussi dans la manière de se représenter soi et le monde, quoi.
Et donc, dans cette première exposition, tu présentes les travaux de 6 artistes qui s'orientent ou qui sont un peu autour de la gravité de la production de Chloé Delarue pour cette exposition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous présentez à la Maison Pop?
Ouais, donc cette première exposition, en fait, elle réunit 6 artistes. Alors, il y a en effet le parti pris que l'exposition soit éclairée par une œuvre qui est celle de Chloé, parce que je pense que cette idée de... L'exposition joue beaucoup sur ces questions d'éclairage et d'exposition au sens lumineux et médiatique du terme. Et puis, il y a une autre œuvre. Moi, je commence parfois aussi à parler de l'exposition par là, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre des années 90 dans cette exposition, qui est une œuvre de l'artiste américaine Julia Cher, qui va être une figure qui va revenir, je pense, dans le cycle. L'œuvre de Julia, c'est une caméra des années 80 qui est cachée dans une herbe de pampa, donc qui a cette espèce de cachette à la fin très exubérante. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre en lien cette œuvre qui parle de la surveillance. Julia Cher est une des premières artistes à travailler à partir du matériel de la vidéosurveillance dans les années 90. Et de mettre en rapport cette œuvre avec des pratiques qui, selon moi, sont informées par la question de la surveillance, mais qui ne sont plus dans un rapport démonstratif, didactique, dystopique à ce qu'est la surveillance, mais dans une forme d'incorporation en fait totale de cette manière de regarder et de se représenter. Donc, y a une espèce d'écart comme ça que je trouve intéressant. Et en même temps, déjà, l'œuvre de Julia, même dans les années 90, dit beaucoup de choses sur, C'est pas du tout une œuvre dystopique, en fait. C'est une œuvre plutôt parodique de ce qu'est la surveillance et qui souligne que, justement, la caméra n'a déjà plus besoin de se cacher dans les années 90.
Oui, on avait cette discussion dans le centre d'art de la Maison Pop où tu m'expliquais qu'on peut montrer le câble d'alimentation de l'appareil photo comme on peut ne pas le montrer. Vous avez fait le pari de pas le rendre apparent parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de savoir si la caméra est branchée ou non pour déclencher une réponse dans l'attention, dans la manière de se projeter, dans la manière d'agir comme ça dans une situation sociale et que donc, en fait, la caméra, elle est déjà intégré, ingéré, microscopique.
Exactement. Et l'intérêt, c'est de voir ce que cette présence génère et pas tellement, en fait, ce qui va ressortir de cette archive, de ce que cette caméra archive. Et il y a l'idée de décoratif. Moi, je pense que l'exposition, elle joue beaucoup aussi là-dessus, sur comment ces présences, en fait, sont devenues aussi des choses parfaitement intégrées au décor, que ce soit le décor des villes, que ce soit un décor numérique aussi. Donc, et c'est assez intéressant de voir comment cette œuvre de Julia, elle trouve un écho assez fort dans les œuvres suspendues de Guillaume de Nervaux, qui rejoue aussi quelque chose de l'idée de nature et de comment on s'inspire de la nature pour créer des formes qui sont des formes surveillantes aussi. L'exposition, je pense, elle joue un peu sur cette tension-là. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand je parle souvent de ce programme, les gens s'imaginent effectivement que ça va être quelque chose d'assez grave, avec un ton un peu solennel. Et je pense à un imaginaire, comme j'emprunte aussi cette référence à Bruce Sterling et à la science-fiction, un imaginaire vraiment dystopique. En fait, c'est pas vraiment le point de vue du cycle. Je pense que par exemple, la résidence avec Harry Lay en est une illustration aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette dimension aussi humoristique et de voir plutôt ce que ça produit, ce que cette visibilité produit sur les manières dont on se représente, plus que sur un imaginaire qui serait hyper dark. Voilà.
Oui, quand tu dis la distance avec un certain aspect démonstratif dans le travail de Julia Cher, là où je pensais que ça joue le plus à plein cette réappropriation complète, c'est dans le travail d'Harry Lay. Et notamment les 4 vidéos qu'il présente à la Maison Populaire, donc qui s'intitule This is my bio, qui est donc une série de 4 coups de vidéo présentées sur des iPads, où vraiment il est complètement dans le jeu de la représentation, mais il le tourne, il le tord pour en faire autre chose. Il y a des moments d'échappée de poésie, de chant, où on sait qu'il est en rupture avec le personnage qui joue dans la vidéo. Il y a des moments de fragilité, de sincérité. Donc en fait, toutes ces couches d'interprétation, d'auto-représentation, puisqu'il se filme lui-même d'ailleurs.
Oui, et puis il y a cette question qui est posée par le titre « Is this my bio ?» Il y a vraiment cette ambivalence entre le personnage... comment le personnage colle ou non à la biographie, enfin l'autobiographie de l'artiste. Il y a vraiment, pour moi, cette espèce d'effet de décollement. Et même quand on met le casque et qu'on écoute les paroles d'Harry Lay, il y a vraiment, ça a été fait en post-production, donc il y a vraiment cet effet lip-sync. Donc il y a un espèce d'effet de flottement entre ce que lui, il incarne à la caméra et le discours qui est hyper... formaté, parfois, enfin, assez très très bienveillant, mais dans un espèce de surplus de sucre comme ça, qui fait que ça se vide un peu de son contenu, et en même temps, voilà, il y a des moments qui échappent à ce côté très marketé, des moments assez pop, et puis beaucoup de d'humour. C'était aussi pour ça que j'avais envie de l'inviter à faire cette résidence avec moi pendant l'année, parce que pour moi, c'est vraiment The Artificial Kid, c'est vraiment lui, quoi. Il travaille déjà à partir de cette question de période un peu charnière de l'adolescence. Là, il va travailler avec des ados de Montreuil. Et puis, il y a cette question d'artificialité de soi totale, quoi. Comment réussir à être soi-même, ou à se présenter, ou à être dans une forme d'authenticité. Comment tout ça est assez galvaudé, quoi, aujourd'hui. Et sans que ça soit un truc dramatique. Au contraire, un truc avec lequel il faut jouer, quoi.
Et donc, en même temps que tu travailles à ce cycle, donc à la Maison Populaire, on peut dire rapidement que son exposition Aquarium, elle est visible jusqu'au 23 avril prochain. Tu vas ouvrir à Mécène du Sud une exposition que tu curates avec Margot Bonopéra. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste cette exposition avec Margot?
Alors, Career Girl, c'est donc une exposition qu'on a pensée un peu à partir de notre propre situation. On est deux amis qui se connaissent depuis 10 ans. On a fait nos études ensemble. Aujourd'hui, on fait le même travail à peu près. Margot, elle est aussi commissaire indépendante et elle travaille aussi à la Fondation Van Gogh à Arles. Et on avait envie de faire un projet qui aurait une dimension humoristique. C'était une envie de départ liée à un constat aussi que l'humour a pas mal disparu de beaucoup de propositions, d'expositions. Enfin, qu'il y a eu un moment où l'ironie était très présente et puis qu'on a voulu, je pense, dégager l'ironie. Enfin, il y a eu un espèce de procès de l'ironie. Du coup, j'ai l'impression que ça a absorbé un peu tout le terrain humoristique qu'il pouvait y avoir. Bon, voilà. Et on avait envie de travailler vraiment sur une expo qui aurait comme prisme la comédie et de travailler un peu sur aussi notre comédie, c'est-à-dire la question de nos carrières respectives et de la compétition qu'il peut y avoir entre nous et comment notre amitié ou comment une alliance, je pense aussi féministe, peut tenir dans ces conditions de mise en compétition que veut notre milieu. Et donc on a appelé ça Career Girls. Career Girls, c'est un film de Mike Lee, un réalisateur anglais qui date de la fin des années 90, où ces deux amis qui se retrouvent après 10 ans et qui font un peu le bilan de leur vie, que ça soit sur un plan professionnel ou sentimental, et qui comparent en fait un peu leur trajectoire respective. Et donc on a invité un certain nombre d'artistes qui parlent de ces questions de succès, de compétition, de carrière plus ou moins, et d'ambition plus ou moins déçue, voilà, avec des figures féminines qui sont aussi, je pense forcément auxquelles on pense forcément dans ces cas-là, qui sont aussi des figures de pop stars qui sont sous tutelle masculine. Voilà, donc c'est une exposition qui réunit un peu toutes ces questions-là à Montpellier.
C'est assez drôle aussi de jouer avec l'idée de le poncif de la trentenaire qui fait le point sur sa vie. C'est tellement omniprésent, surtout dans la culture cinématographique américaine, où en fait ça charrie constamment ces images de femmes qui se doivent d'une certaine réussite, d'une certaine excellence à un certain endroit, qui soudainement se font une sorte de registre de ce qu'elles ont ou pas achevé. Et donc c'est une exposition collective. Et vous présentez
Par exemple, je pourrais pas parler de tout, je pense, mais on présente notamment une œuvre de Fabienne Odéo, donc avec qui moi j'avais déjà travaillé, qui s'appelle Rétrospective à l'échelle 1/15, qui est en fait une maquette de la rétrospective que Fabienne s'est octroyée elle-même dans son salon en 2019. 2018-2019, et qui est en fait une espèce de réponse à une forme d'absence aussi de, on va dire, d'intérêt institutionnel pour sa pratique dans sa globalité, parce que c'est quand même, Fabienne fait quand même des expos, elle a des invitations ponctuelles, mais c'est vrai que elle a une pratique qui est extrêmement qui touche à la musique, à la performance, à la vidéo, à la peinture. Il y a un travail sur le langage et que l'institution peut peut-être pas absorber cette diversité ou cet éclectisme, ce manque apparent de cohérence entre les différents éléments. Et du coup, elle s'est octroyée cette rétrospective où toutes ses œuvres sont donc reproduites à l'échelle 1/15 et intégrées à une maquette de musée fantasmé. Et donc, pour l'instant, cette œuvre, elle avait été montrée chez elle avec l'aide de Tonus, qui est un artiste run space qui est dans le même immeuble que où vit Fabienne. Donc voilà, on s'est posé la question d'ailleurs du sens que ça avait de transposer cette œuvre dans un espace d'exposition, parce que c'est vrai que sa force, c'était aussi qu'il soit dans le salon de Fabienne et que les gens viennent à sa rétrospective chez elle. Donc voilà, on va tester en tout cas cette transposition dans l'espace d'exposition. Et puis il y a aussi, on présentera aussi un magazine de Kevin Desbouy, donc avec qui je travaille aussi assez régulièrement et qui s'appelle Success. Et qui est pareil sur ces questions de logique de carrière et de compromission et de toutes les contradictions qui peuvent être générées par des ambitions de réussite ou notamment dans le milieu de l'art.
Je suis assez d'accord avec le constat que tu fais sur la présence de l'humour ou pas dans les lieux d'exposition de l'art, mais pour le coup Fabienne c'est vraiment quelqu'un qui je pense fait ce travail de ramener l'humour, et peut-être tu peux nous parler un peu du magasin de pulls.
Fabienne pour le coup était vraiment très contente qu'on fasse cette expo et en effet l'humour c'est une partie très importante de son travail, mais je pense comme Julia Cher, comme plein d'artistes avec qui je travaille. Le magasin de Pull, c'est un projet d'installation opéra qu'elle a commencé, qu'elle a fait d'abord à Sète. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, elle a fait d'abord à Complot Bruxelles, mais c'était une version très, très restreinte. C'était un seul pull dans une vitrine. Puis, il y a eu le magasin de Pull à Sète, où là, c'était un magasin avec des pulls bleu marine et marron. Qui avait été récupéré par Fabienne et qui était réarrangé dans cette installation. Elle avait fait une bande-son qui accompagnait le magasin et les gens venaient essayer des pulls dont les prix allaient de 20 à 1000 euros, je crois, au début. Voilà. Et c'était tout un jeu, en fait, sur la question du shopping, du goût et puis de la symbolique de ces couleurs aussi. Fabienne, elle est peintre, je pense que c'est aussi quelque chose qui l'intéresse, et de voir quelles couleurs on décide de mettre sur nous et d'endosser, et qu'est-ce que ça raconte aussi sur la position sociale. Le marron, par exemple, comme elle dit, le marron à ses nuances, le nude à ses nuances, je ne sais plus. Il va du plus clair au plus marron, ce n'est pas forcément la même catégorie sociale. Et puis, c'est vrai que le marron, il est un peu vide de sens, il faut qu'il y ait une marque pour lui donner un peu de cachet. Et puis, il y a le bleu marine, qui est la couleur du pouvoir, qui est la couleur de la gendarmerie, des costards, de businessmen. Donc voilà, c'était un jeu un peu sur ces notions-là. Et à Brest, c'était que des pulls faits par Fabienne. Sachant que toute la complexité de cette installation, qui consiste en important avec des pulls faits par Fabienne et des mannequins, c'est de savoir à quel prix on vend les pulls. Parce que c'est là où ça devient assez épineux et on en a parlé pendant assez longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la valeur de ce travail ? C'est une pièce unique, c'est une œuvre d'art. Elle a été faite de main par Fabienne. Mais en même temps, l'idée, c'est aussi que les gens les emportent chez eux. Si les gens ne les emportent pas chez eux, ce n'est pas drôle. Donc voilà, il y a toute une réflexion aussi sur la question de la valeur qui est intrinsèque à l'installation. Là, elle va faire un projet à la synagogue de Delme. Toutes ces peintures sont à 2 euros. Donc, il faut juste... Il n'y a pas de transport. Donc, il faut juste... une fois qu'on l'achète, on l'emmène avec soi. Mais il y a toute cette réflexion sur ce que c'est que la valeur d'une œuvre d'art.
Et donc, dans le cadre de ta résidence à la Maison Populaire, tu mènes aussi... Donc, il y a toute cette activité d'événements et de programmation. Il n'y a pas simplement le travail d'exposition et d'accompagnement des résidences de création qui existent là-bas. Et donc, tu commences ta programmation publique cette semaine.
Tout à fait.
Alors, cette semaine, à la date où on enregistre, autour du 19 février, et vous lancez la traduction en français, traduction collective des sous-communs. Donc des Undercommons de Stefano Harvey,
Arnie, ouais.
Arnie et Fred Moten.
Ouais. Quand Rosanna m'a dit que la traduction collective s'achevait et que le livre allait paraître courant février, c'est vrai que ça faisait totalement sens de faire ça à la Maison Populaire, déjà par rapport à l'historique de ces ateliers de traduction, et puis aussi par rapport aux images, on va dire, enfin, je ne sais pas s'il faut parler d'images ou de concepts, enfin, on en parlera sûrement samedi lors de l'événement, mais qui sont ceux de Fred Moten et Stefano Arnie dans les Undercommons, et qui sont complètement en résonance avec cette question de ces paradoxes de la visibilité et de qu'est-ce qui se passe en dehors de ce qui est cartographiable et de ce qui est qui fait l'objet de la gouvernance, quoi, pour reprendre un peu leurs termes. Donc ces questions de sous-commun, qui sont ces espaces, ces aides, ces relations, qui justement dont on comprend qu'ils échappent un peu à ces régimes de visibilité classique. Et puis puis le texte, il s'écrit dans une tradition radicale noire aussi, qui par exemple, et notamment je pense la figure de Édouard Glissant, qui aussi avec ses termes d'opacité, enfin il y a en fait tout un corpus de textes d'auteurs noirs qui travaillent sur des questions relatives à ces formes de, je pense, de monstration de soi et de visibilité qui sont nécessairement à l'embranchement, en tout cas, de thèmes du cycle. Donc c'était super important de les inviter et de comprendre en fait ce dont il est question quand on parle de sous-commun, de fugitivité aussi, qui est un terme qui revient souvent dans les écrits de Motten et Arny. Voilà, et puis on va être entouré de beaucoup de traducteurs, traductrices qui ont pris part à ce travail collectif. Et donc, voilà, ce sera l'idée d'avoir une discussion autour du texte, autour du processus de traduction, et puis d'entendre les lectures de différents participants et participantes à ces ateliers.
Le 25 mars, tu continueras ta programmation événementielle avec la performance Thank You Paul de Lamia Moussa, et donc qui entre en écho avec la vidéo qu'elle présente à la Maison Populaire.
Tout à fait. C'est une mise en scène qu'elle a développée récemment au Théâtre de l'Usine à Genève, et qui fait suite en effet à cette vidéo où elle a filmé les coulisses de la Chocolate Factory de Paul McCarthy, qui était une exposition de l'artiste américain à la Monnaie de Paris. Lamia était performeuse dans cette espèce d'usine Disneyland où ils fabriquaient du chocolat. Et elle a filmé tout ça avec une caméra embarquée. Et cette première expérience de travail, on va dire, dans le milieu de l'art, mais sans être considérée forcément comme artiste, engendrer toute une réflexion et à créer en fait de fil en aiguille des situations dans d'autres contextes professionnels qu'elle raconte en fait dans cette mise en scène, qui a presque des allures de stand-up à certains moments. C'est pareil, il y a une espèce de distance assez humoristique sur ces événements qui sont souvent assez absurdes et voilà, qui sont une espèce de satire un peu du milieu de l'art.
Et en avril, pour le dernier événement lié à l'exposition Aquarium, le 15 avril, tu présentes une discussion sur l'apparition de la télé-réalité.
Ouais, ben c'est vrai que j'ai beaucoup baigné dans la question de l'apparition de ce format à la fin des années 90 pour préparer l'exposition, en regardant pas mal de camgirls, enfin les archives de certaines camgirls qui sont en ligne. Et puis il y a ce film qui est un documentaire de Ondi Timoner dont Julie Hainaut m'avait parlé, qui en fait s'appelle We Live in Public et qui documente les expérimentations menées par un pionnier, un peu un espèce d'entrepreneur artiste new-yorkais de la fin des années 90, qui mène une expérience de terrarium humain et qui consiste en fait à une sorte de performance de pré-téléréalité. Ce qui m'a pas mal intéressée dans ce documentaire, c'était l'hypothèse que finalement la téléréalité telle qu'on a pu nous la connaître après au début des années 2000 en France avec Love Story, tout ça, s'était développée dans des formes artistiques et cinématographique entre les années 70 et 2000. Et que, par exemple, cette performance, enfin ce terrarium humain qui ressemble vraiment à ce qu'on verra après dans le loft, etc., c'est une performance à laquelle se rend, je ne sais plus, quelle curatrice du PS1 avec une immense excitation. Enfin, il y a tout un... C'est plutôt le milieu de l'art qui participe à ça à ce moment-là. Et en fait, j'ai invité Olivier Haïm, qui est maître de conférence et qui travaille spécifiquement qui a fait une thèse sur l'apparition de la télé-réalité, a discuté avec moi de plusieurs extraits vidéo, donc qui sont soit des films soit des documentaires, soit des émissions de télé. Et donc l'idée, c'est qu'on voilà, on regarde quelques extraits de cette, qu'on fasse une espèce d'archéologie de la télé-réalité, un peu, voilà.